Bonsoir à tous et bienvenue dans ce carnet nomade. Ce soir, Vies intérieures, Colette Fellous à la réalisation, Vincent Deck. Un des merveilleux pouvoirs de la littérature est de dévoiler les nuances de la vie intérieure des personnages. Mais aussi, ça peut être les nuances d'une ville, d'un objet, d'un sentiment, de plusieurs sentiments. Phrase à phrase, page à page, par la force de la composition et par la forme même du récit, un livre va se construire sous les yeux du lecteur. Et le lecteur entrera peu à peu dans le plaisir d'être de plein pied au cœur d'un être, d'une ville, d'un objet. Vies intérieures, aujourd'hui, dans ce carnet nomade, c'est entrer dans les pages de trois livres, celui de Belinda Cannon, qui met en scène un homme amoureux de deux femmes, un thème assez banal, mais qui, par la force du livre, va être beaucoup plus universel. Elle dit d'ailleurs « un homme amoureux de deux femmes » et que cela ne dérange en rien. Le titre de son roman, c'est « Nu intérieur ». Le livre d'Éric Marty également, « La fille », qui raconte la vie d'un village du nord de la France, un village au nom imaginaire, Landon, où habite une ou un petit Claudie. Claudie, c'est en fait un jeune garçon qu'on appelle « La fille » dans le village. C'est un roman tendre et violent, réaliste et mystérieux, tout en nuances et en sensations intimes. Enfin, le livre de Pierre Ducrozet, « Héroïka », qui inaugure la nouvelle collection dirigée par Charles Danzig chez Grasset, « Courage ».
Carnet nomade, Colette Fellous.
Vie intérieure suite, avec cette première phrase du livre d'Éric Marty, « La fille ». Dans le village de Landon, à l'extrême nord de la France, celui qu'on appelait « La fille » était déjà depuis longtemps la proie de nombreux hommes. Il était la proie. Un joli gibier. C'est donc avec cette phrase, Éric Marty, que vous ouvrez votre livre, votre fable, on pourrait dire, ou votre conte cruel. Ça se passe donc dans ce village de Landon, avec un garçon qu'on appelle la fille. Et je ne sais pas comment vous êtes arrivé à écrire ce livre, mais il y a c'est complètement étoilé, labyrinthique, et vous créez, vraiment, vous avez recréé un monde, ou créé un monde... à la fois de la campagne et de la sensibilité des adolescents. Est-ce que c'était un rêve pour vous d'écrire ce livre? Comment vous avez trouvé ce livre? C'est un livre, en fait, on le trouve.
Oui. Eh bien, peut-être à partir de cette première phrase, justement. Il me semble que je n'aurais pas pu écrire ce livre s'il n'avait pas trouvé cette première phrase qui a quelque chose d'une forme de programme de fiction. Il y a tout, il me semble, dans la première phrase. Il y a en effet l'espace de ce nord extrême, de ce nord un peu triste, un peu sans fortune, sans objet, sans rien.
Un nom inventé, en fait.
Voilà, un nom inventé, Landon. Landon. Avec cette double nasale, Landon. Alors, dans le livre, d'ailleurs, il y a beaucoup de réflexions sur le phrasé des villageois qui parlent avec cet accent nasal et que le narrateur qui est plus raffiné un petit peu que tout le monde, parce qu'il est, lui, un peu en marge de tout ça, il déteste, lui, le narrateur, cet accent de Landon. Et voilà. Donc, il y a ce nom de Landon, puis il y a la fille, il y a ce nom de la fille, et l'idée, justement, des hommes, l'idée de la proie, l'idée du gibier. Alors, forcément.
Des hommes qui sont avides. Là, en permanence, ouais, avides. On sent des injures, des
désireux.
On sent que toute leur vie est abîmée, en fait.
Absolument.
Une vie cassée, je sais pas.
Mais justement, peut-être la fille, donc, puisque c'est ce garçon qui a l'apparence d'une fille et qu'on appelle Claudie, peut-être dans ce monde sans rien, ce monde très, très misérable, misérable matériellement, puisque les objets sont rares, puisque la pauvreté est présente partout, il n'y a pas d'argent, peu. Puis très, très pauvre aussi, je dirais, même spirituellement, enfin dans l'existence.
C'est pauvre. C'est ça.
Alors, cette fille, cette Claudie, est un peu le trésor, comme ça. C'est un peu une figure, justement, tombée du ciel, une sorte... L'idée un peu, ça serait, je l'ai pensé après, ça serait un peu comme si Eros avait atterri tout d'un coup, dans ce lieu de misère. Et donc, Eros, c'est la beauté, Eros est aussi un être...
L'ambivalence.
L'ambivalence, c'est un peu une sorte de chérubin. Un ange. Et qui est là comme une forme d'objet magique ou de trésor dans un univers où il n'y a rien. Là où tout manque, là où justement les moindres besoins ne sont pas satisfaits. D'où, alors, on parlait d'avidité, on parlait de désir à l'égard de cette fille, ce garçon. D'où cette espèce d'avidité extrême, parce que là où ce n'est que ruine, là où ce n'est que manque, que misère, eh bien, il y a quelque chose qui est sublime et qu'on désire, alors qu'on désire assez mal, puisqu'on le désire avec quelque chose d'un peu primitif, avec une sorte de grossièreté, de vulgarité,
oui.
Y compris une brutalité qui n'est pas seulement du corps, mais une brutalité même de l'âme. Il y a quelque chose de primitif là-dedans. Néanmoins, on pourrait dire que Claudie, on pourrait dire malgré tout, élève un tout petit peu, je dirais, cet univers par sa beauté. Et surtout pour le narrateur qui, lui, comme on l'a dit, est un petit peu à l'écart de tout ça, à l'écart de ce petit monde.
C'est l'aîné donc de Claudie qui a plusieurs âges hein, dans le livre. Il y a des temps différents en fait,
et
il veut le protéger hein, de ses regards avides, de ses.
Oui, parce que le narrateur a connu Claudie lorsqu'il était enfant, lorsqu'il avait, disons, on peut dire qu'il y a approximativement 2-3 ans de différence entre eux. Donc il y a plusieurs âges, et c'est en fait l'idylle qu'ils ont connue enfant qui. Alors là, qui est beaucoup moins brutal, qui est cruel aussi, mais qui a tout de même plus de naïveté, plus de tendresse, plus d'une poésie. C'est peut-être à cause de ça, parce que justement, le narrateur, lui, a vécu quelque chose d'idyllique avec Claudie, qu'en effet, il se fait son protecteur à l'égard des appétits grossiers des autres. Un protecteur qui est aussi, malgré tout, traversé par lui aussi de désirs, et un protecteur qui pourrait bien rejoindre la meute, en quelque sorte, mais qui, à cause du passé, en effet, se distingue de la meute et qui donc la protège et va la protéger.
Et on sent, d'ailleurs, Éric Marty, que vous ne vous lassez pas de décrire Claudie, hein, d'un bout à l'autre du livre, cet étrange être, mi-fille, mi-garçon, qui est dans des situations très, très différentes, à la fois amoureuse avec cet homme, ce narrateur, ou cet enfant, cet adolescent qui le protège, mais aussi dans la cour de récréation avec les grands qui l'entourent, qui l'encerclent. On sent qu'il a aussi une indifférence à tout. Claudie, il se laisse faire, mais en même temps, il est royal aussi, il est princier, il est.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois dans l'indifférence et en même temps qui est totalement exposé par sa beauté. C'est un être qui, en effet, a cette distance, cet effacement aussi peut-être de son identité, et en même temps qui est entièrement visible, qui est à la vue de tous. C'est là-dessus aussi que le roman fonctionne, puisque, par exemple, dans la partie, on assiste à une sorte de striptease de Claudie, puisque au début du roman, on est 10 ans après l'idylle, et le narrateur retrouve un moment Claudie dans une sorte d'auberge un peu sinistre du village, et celle-ci...
Il est sur la table.
Voilà, celle-ci va être plus ou moins forcée, disons, par 3 hommes du village qui sont les méchants, qui sont des vilains frères, comme ça, et qui vont plus ou moins la forcer à faire un striptease. Et précisément, ça, c'est typiquement une scène que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, parce qu'elle est une scène de presque picturale, où il s'agissait de dévêtir un corps dans la lumière et qui ne peut pas se montrer précisément jusqu'au bout, puisque la scène s'interrompt au moment où le corps est totalement ouvert, totalement offert. Donc,
s'interrompt parce qu'il y a une panne, voilà, ça devient obscur.
Tout à fait.
Et ça fait peur, votre livre.
Oui, il fait peur. Tout à fait. Il est parfois effrayant. Il y a des scènes très, très cruelles. Je pense à la scène du meurtre de Monsieur Schwoul, qui est un autre personnage du village, qui sera un peu le maître, le modèle du narrateur, qui est un instituteur très, très mystérieux, lui aussi fascinant dans une forme d'absence, de présence et d'absence, qui est en même temps un grand maître. Il me semble que si le narrateur possède tellement bien le langage, parce qu'il parle très bien, le narrateur, dans un monde où on parle mal. Tout ce goût pour les mots et cette capacité justement à nommer ce que les autres sont incapables de nommer. Tout ça lui vient de ce monsieur Schwul, cet étranger qui est venu, qui est arrivé au village un jour et qui est devenu donc l'instituteur. Et évidemment, par exemple, oui, son meurtre, le meurtre de monsieur Schwul, est une scène particulièrement violente, particulièrement cruelle. Donc il y a... C'est un monde où la beauté cohabite non seulement avec la misère, en quelque sorte, avec le pauvre, avec le dénuement, parce que c'est le dénuement qui règne. Eh bien, cette beauté, elle cohabite aussi avec une extraordinaire violence.
Je ne raconte pas mon enfance, vous écrivez, mon enfance n'existe pas. Je veux raconter Claudie, raconter comme je l'ai connue. Ça pourrait tenir en une phrase. Mais il faut des préalables qui m'entraînent parfois où je ne voulais pas aller, comme cela arrive lorsqu'on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas et qu'on décide alors d'élargir le cercle de prospection. J'entends par exemple, là, à l'heure qu'il est, la voix de Monsieur Schwul. Comment peut-on, je ne dirais pas posséder, car il ne la possède pas, c'est elle qui le possède, comment peut-on donc être possédé par une voix pareille, si ensommeillée, si pâteuse, avec ses lents dérapages vers l'aigu, gouffre d'incertitude? La salive humecte la commissure, pas plus que tibia, personne ne connaît ce mot à Landon, à l'exception de Monsieur Schwul. La salive humecte donc la commissure de ses lèvres, deux petites perles rondes de mousse blanche qui nous fascinent tous, comme une lettre de dénonciation qu'il porterait punaisée sur son front. J'entends donc cette voix, blanche elle aussi comme la salive, fascinante comme elle, hypnotisante même, répulsif assuré, lorsqu'il penche sa lourde tête tout contre notre visage pendant une dictée, et que son murmure ne parvient plus à contenir l'haleine chargée qui nous enrobe et nous endort. Histoire incompréhensible, alourdie de trop de silences, de redites, de prononciations exagérées, de certains vocables inconnus ou piégés. La voix de Monsieur Schwul est bien là, au creux de mes oreilles. Elle a voyagé avec le temps, ou plutôt non, elle n'a pas bougé. Et on voit là, dans cette page, Éric Marty, votre façon justement de décrire toutes les nuances, non seulement des voix, mais des odeurs, des corps, des vêtements. Il y a vraiment tout. C'est comme si vous épeliez toute cette région et ces personnages mystérieux qui portent tous en fait comme un secret, comme un mystère et qui nous entraînent aussi vers de plus en plus vers la profondeur comme ça d'un paysage.
Je crois qu'un village est un espace, pour un roman, un espace merveilleux, parce que c'est un espace clos. Et donc ce village, en effet, on dit d'un village qu'il a, je sais pas, moins 1000 âmes ou 1200 âmes. Et en effet, il y a des âmes dans ce village, des âmes qui sont souvent dissimulées, et qu'en effet, le narrateur ne cesse de vouloir percer, de vouloir comprendre. C'est grâce à Claudie tout ça. C'est parce que justement, peut-être il a vu Claudie, et que l'ayant vu, il a son regard et son existence est bouleversé et il est en mesure précisément peut-être de comprendre le monde grâce à cette image unique qui est la clé de toutes les images en quelque sorte. On pourrait dire qu'il a, grâce à cette image...
Il comprend tout le reste.
Et cette image est aussi belle en tant que telle, mais elle est aussi la clé pour entendre, pour voir. Vraiment en tout cas, de donner du sens à tout ce qu'il perçoit, tout ce qu'il voit. Et d'où en effet ces descriptions... Où les sens sont omniprésents, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe. Et c'est un roman, en effet, la sensation du monde sensible et l'imaginaire a cette puissance de le construire. Et l'imaginaire, on pourrait dire qu'il est alimenté, en effet, pour le narrateur par Claudie.
Oui, et puis le vous dites l'imaginaire alimenté par Claudie et aussi des choses terribles vont arriver parce que Claudie a peut-être inventé des choses. Donc quand il raconte au narrateur et puis à son père aussi sûrement que ce monsieur Schwul lui a fait faire des choses terribles, on ne sait pas trop s'il a violé, s'il a embrassé, enfin si et on ne sait pas s'il ment ou pas. Et c'est ça qui est beau, c'est que le réel vient aussi peut-être d'une fiction, en fait.
C'est un monde qui naît du récit qui le fait naître, en quelque sorte. Et on a l'impression qu'il est constamment en prolifération, en mouvement. Et en effet, il y a ces récits qui s'opèrent. Claudie, à un moment, laisse entendre, en effet, qu'elle a été victime de ce monsieur Schwul qui va...
J'aime bien parce que vous dites « elle » dans le livre aussi. Hein, on sait pas, parfois vous dites « il », parfois « elle ».
Voilà.
Et donc, il a laissé entendre.
Elle a laissé entendre qu'il avait été en effet victime des mauvaises pensées, du mauvais regard de Monsieur Schroul. Et c'est ça qui va, au fond, créer le drame, le premier drame du village, et qui va aboutir donc à ce meurtre.
Tous les hommes qui sont là et qui vont, c'est vraiment une chasse. Hein.
Absolument, il va y avoir une chasse, chasse à l'homme. On va l'emmener dans la forêt, on va le tuer, alors qu'il est sans doute innocent. Enfin,
on l'enferme dans un parapluie d'abord. C'est très bizarre comment vous avez trouvé cette idée.
Il y a un côté un peu parfois bande dessinée, mais alors
c'est
les images et visuels. Tout d'un coup, le visuel commande presque tout. Et il y a cette scène un peu burlesque, parce que c'est un meurtre à la fois affreux et en même temps burlesque, parce que M. Schwoll est un personnage aussi comique. Il est grotesque, donc le burlesque et le cruel se mêlent, d'autant plus que c'est vu par un enfant. Et le monde de Landon est un monde assez fantasmagorique. Il y a une dimension presque aussi, enfin je voudrais pas, la référence serait un peu trop élevée, mais côté Bruegel, quoi. Il y a un côté, c'est un monde du Nord, avec des trognes, avec des comportement, avec des appétits aussi féroces, quelque chose de déchaîné, quelque chose de très peu policé. Et donc, ce monde est un monde aussi qui vit et où la fiction ne cesse de s'épaissir et de se déployer parce que, justement, nous sommes aussi dans ce monde du Nord, qui est un monde qui a une part de fantastique, une part de très grande poésie. Bien qu'elle soit un monde effectivement très démuni, mais c'est un monde où les appétits sont énormes, et ce monde-là en effet est un monde où la fiction, où le mensonge, où la réalité, où la mythomanie aussi, car les villages sont aussi des lieux de mythomanie,
de rumeurs,
de folie, de mensonges et d'absolue originalité de ces personnages. C'est des gens toujours très extravagants. L'extravagance, donc, est aussi ce qui est un des moteurs de la fiction.
Et vous avez rencontré dans votre vie, Éric Marty, un personnage comme Claudie, enfant?
Je crois qu'il est rare qu'on ne rencontre pas une fois ou deux fois dans sa vie ce genre de créatures, et qui sont en effet ni homme, ni femme, ni jeune fille, ni jeune homme. C'est aussi quelque chose de mythologique. C'est aussi, je pense, dans mon propre imaginaire, c'est à la fois, en effet, un être que j'ai pu croiser, dont je peux avoir des images, dont je peux avoir même des noms. Mais c'est aussi une expérience mythique de la vie. Toute vie est faite d'expériences mythologiques du monde. C'est peut-être ça que j'ai voulu peut-être faire, c'est créer une mythologie littéraire au travers d'un personnage réellement mythique et en même temps complètement incarné.
Oui, vous dites à un moment que vous avez, enfin le narrateur dit que là je vais raconter quelque chose parce que je regarde, mon regard est devenu libre et c'est le regard le plus libre de tous les regards.
Voilà.
Et il y a cette liberté. Hein,
Voilà, c'est-à-dire que l'expérience de la beauté, en effet, est une expérience si puissante pour le narrateur, dans les circonstances en plus intenses et dramatiques qui sont celles où il les vit, où la mort, où la violence, où la sexualité, le désir sont présents, cette pensée de la beauté est si puissante qu'en effet, il a l'impression d'avoir le regard le plus libre de toute la création et qu'il va pouvoir enfin décrire Claudie. Et peut-être va-t-il jusqu'à trouver des formules qui, en effet, parviennent à saisir Claudie. Et pour cela, c'est une forme de traversée initiatique, au fond, de son petit monde qu'il opère, jusqu'à ce moment, justement, où il a l'impression d'accéder à une forme d'un regard libéré de toute limite, et qu'il parvient donc à saisir ce corps où la féminité et la masculinité sont entièrement superposées et fondues. Il parvient donc à nommer et à décrire ce corps magique qui le trouble depuis toujours et qui, pour une fois, par ce striptease, donc, s'offre à un public qui est un public très hétérogène, il faut bien le dire, mais où lui, depuis sa chaise, saisit quelque chose de sublime pour lui. Au fond, on pourrait dire que le narrateur n'a rien, lui non plus, mais il a une image, qui est cette image de la fille ou du garçon, comme on voudra, qu'il possède en lui.
Et par inadvertance, à la fin, Claudie disparaît.
Claudie disparaît, oui. On ne va pas raconter la fin, qui a sans doute sa part de drame. C'est aussi une fin qui est marquée par la fuite, puisque les deux héros, le narrateur et Claudie, parviennent à fuir Landon et parviennent à une sorte de road movie, d'une histoire sur la route, comme ça, ils sont sur la route, ces routes du Nord, Et leur fuite est aussi une fuite un peu à la Adam et Ève. C'est aussi mythologique, cette fuite. C'est aussi le couple primordial qui se constitue dans cette fuite. Donc c'est aussi une fin qui est prise dans ce thème de la fuite et le thème de la perte.